Patricia Martin, votre invitée, c'est quelqu'un qu'on a longtemps entendu n'est-ce dans les matinales de France Inter, le journaliste économique Jean-Marc Silvestre, pour son livre « Les grands entretiens de l'histoire », le livre paraît aux éditions Saint-Simon.
Bonjour Jean-Marc Silvestre.
Bonjour Patricia Martin.
Non, ça fait drôle hein, de se retrouver des années plus tard.
Non, c'est très agréable.
Mais on s'est reconnu dans le hall, ce qui est quand même extraordinaire. Hein, c'est un bon point pour les deux. Vous avez donc dans ce livre imaginé donc la rencontre de personnages historiques. Alors ça va de Cléopâtre à Mozart en passant par Marx, De Gaulle, Keynes ou Machiavel. Est-ce que vous avez cherché, donc, dans ces entretiens imaginaires, une forme de, bon, des réponses à des questions, mais une forme de consolation à notre époque?
Je suis d'abord allé chercher des gens que j'admire, que j'aime, qui sont dans mon panthéon, dans ma bibliothèque. Donc, j'en ai choisi, on en a retenu une vingtaine, qui ont tous des points communs, c'est qu'ils ont exercé le pouvoir, ils ont acquis le pouvoir, ils l'ont conservé dans des conditions parfois difficiles, et ils ont porté une certaine culture. Et cette culture, c'est celle du pragmatisme. Et quand je regarde tout ce qu'ils ont fait, je ne suis absolument pas désolé par l'époque actuelle. L'époque que nous vivons aujourd'hui ne me rend pas pessimiste.
Alors, ce qu'il y a de drôle, souvent d'ailleurs, et c'est très piquant, c'est que moi je dois dire que j'ai pas mal souri en vous lisant, c'est que c'est tout le temps anachronique, évidemment. Quand vous rencontrez des gens comme Marx ou Danton, on se dit que bon, c'est pas votre tasse de thé.
Mais si, pourquoi? C'est le rêve d'un journaliste que de rencontrer des personnalités comme ça et de pouvoir les interviewer. Alors, quand en plus on peut faire les questions et les réponses, vous rendez compte?
Vous imaginez.
Il y a un certain nombre de confrères qui essaient de le faire aujourd'hui avec des personnes vivantes, mais. Bon, j'ose pas.
Alors, l'époque n'est pas désolante, disiez-vous, Jean-Marc Silvestre, ça c'est vous qui le dites, mais par exemple, Marx, vous lui faites quand même dire que l'autodestruction qui est liée au capitalisme, et qui fait partie du sens de l'histoire, viendra forcément à un moment donné. Alors, vous lui rétorquez que la révolution digitale peut-être corriger ça.
Alors, elle viendra, mais il ne donne pas de calendrier. Non. C'est-à-dire qu'il considère que le capitalisme a été un système qui a une capacité de réadaptation permanente. Et d'ailleurs, parmi les monstres sacrés qui ont fait la vie économique et politique de l'histoire récente, parce que c'est l'histoire récente tout ça, ça date du 19e. Hein. Bon, il y en a trois, il y a Keynes, Schumpeter et Marx. Schumpeter et Keynes ont proposé des systèmes alternatifs au système communiste qui pouvait être considéré comme le prolongement de la catastrophe nazie.
Et vous vous êtes aperçu d'ailleurs qu'ils étaient nés les deux l'année même de la mort de Marx.
Oui, c'est intéressant. Ouais. Ils sont en 1883 et ils ont hérité du background scientifique de Marx, parce qu'il faut quand même reconnaître que Marx a fait une analyse économique de l'histoire formidable. Enfin, ça a été le premier à le faire et tout le monde s'en est servi par la suite, y compris les classiques, y compris les libéraux, parce que c'était un des premiers libéraux.
Alors Keynes pense que l'euro c'est aberrant et Schumpeter, lui, il est farouchement contre le principe de précaution et d'ailleurs il en veut beaucoup à Chirac d'avoir sorti ça de son escarcelle.
Alors, quand j'ai fait Keynes, je me suis dit mais pourquoi je me suis attaché à Keynes?
Et pourquoi Bernard Maris était tant attaché aussi?
Et j'ai pensé beaucoup à Bernard Maris, parce que bon, vous savez, puisque vous étiez là, qu'on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années, j'en suis encore tout ému aujourd'hui, et il était très keynésien. Il a d'ailleurs fait un livre sur Keynes, il y a deux livres sur Keynes qu'il faut lire, celui de Bernard Maris et celui d'Alain Minc, qui se complètent assez bien. Mais Keynes était contre l'euro, il aurait été contre l'euro, parce qu'il considérait que l'euro était une construction détaché de la coordination politique. Il fallait une coordination politique. Keynes avait l'idée de créer une monnaie mondiale. Il voulait créer la monnaie mondiale qu'il avait intitulée le Bancor, parce que c'est quand même l'inventeur du FMI, de la Société des Nations, etc. Donc après la guerre, il voulait un gouvernement mondial et il s'était dit pourquoi pas dans ce gouvernement mondial ne pas faire une banque mondiale, ce qu'il a fait, et puis faire une monnaie mondiale. Mais il se trouve qu'il n'y avait pas que le gouvernement mondial auquel il aspirait s'arrêtait à la frontière de l'économie ou du financement. Exactement comme l'Europe aujourd'hui s'arrête à la frontière de l'économie de marché et n'a pas de liaison politique.
Il y a une femme à laquelle vous vous êtes intéressé aussi, Jean-Marc Silvestre, c'est Louise Michel. Et alors elle est très optimiste parce qu'elle est persuadée qu'à un moment de l'histoire, les hommes réussiront, elle dit pas non plus quand, les hommes réussiront à vivre tous ensemble de manière pacifique et heureuse.
Oui, eh bien, elle était habitée par cette idée-là et ça l'a poursuivie pendant toute sa vie. C'est vrai que ça me faisait plaisir de voir Louise Michel parce que je me suis attaché à Cléopâtre. je me suis attaché à Coco Chanel. Louise Michel était un personnage autrement plus profond, plus fort, un peu moins joyeux. Avec une vie qui a été une vie dure, hein, avec beaucoup de voyages, beaucoup d'une famille, bon, etc. Bon, mais c'est vrai qu'elle était, c'est une leçon d'optimisme.
Il se délecte de voir comment le petit qui occupe son palais de l'Élysée va se débrouiller. Il, c'est Napoléon III, premier président de la République française, élu au suffrage universel, mais c'était peut-être pas un modèle de démocratie. Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à Emmanuel Macron? Ou qu'Emmanuel Macron lui ressemble plutôt?
Je crois que, d'abord, Napoléon III, c'est sans doute pour moi le personnage politique qui a eu le plus d'influence au cours des deux ou trois siècles passés. Il a accompagné, il a mis en musique la révolution industrielle. Et il a transformé la France.
Et il n'a pas seulement transformé Paris.
Et il n'a pas transformé seulement Paris, non, mais il a transformé la France. Les chemins de fer, les usines, l'industrie, etc. Et y a un parallèle à faire avec l'époque que nous vivons actuellement, où nous sommes dans une seconde révolution industrielle, qui est la révolution digitale. Et c'est vrai que, bon, Emmanuel Macron habite le palais de l'Élysée. Napoléon III avait fait du palais de l'Élysée le palais de la République, du président de la République. Alors c'est vrai que ses conditions d'accès au pouvoir, dans un premier temps, ont été très démocratiques, puisqu'il a été élu au suffrage universel, mais qu'ensuite, il s'est aperçu, un peu comme certains présidents, que pour ne pas rester immobile, parce qu'il avait besoin de faire des réformes, il avait besoin de casser le conservatisme d'une petite bourgeoisie de propriétaires qui puait. Il a été obligé de prendre le pouvoir de façon plus dictatoriale. Et ses conseillers autour de lui lui ont conseillé de réutiliser l'image de son oncle empereur, qui gardait dans l'opinion publique une notoriété et une affection forte qui n'est pas légitime. Ce qui est passionnant aussi avec Napoléon III, c'est la querelle absolument violente qu'il a eue avec Victor Hugo et avec les intellectuels.
Qu'est-ce qu'il l'a détesté? Dernière question, il y a un peu de Colbert chez Macron?
Il y a un petit peu de Colbert chez Macron et il y a beaucoup de libéralisme.
Et Colbert, il a été sympa à interviewer?
Colbert, il a été formidable. Parce que j'ai fait un film avec Colbert sur Saint-Gobain, puisqu'il est le créateur de Saint-Gobain, c'est le créateur de Versailles. Il a créé Saint-Gobain pour créer Versailles, avec cette galerie des glaces, hein, demandant à l'empereur, mais pourquoi vous avez fait cette galerie des glaces? Et l'empereur lui a dit, mais Colbert, je fais cette galerie des glaces pour que les nobles puissent se regarder de pied en cap, et pendant ce temps-là, ils ne feront pas de politique, donc ils me laisseront tranquille.
Eh bien, merci à tous les deux. Et je rappelle le titre de votre livre, hein, Jean-Marc Sylvestre. Ça s'appelle « Les grands entretiens de l'histoire » et ça paraît aux éditions Saint-Simon.